Tout de suite, sur France Culture, du lundi au jeudi, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Yvonne Abolivier, l'heure du documentaire. En canoë, en pédalo ou seul au boulot, en randonnée dans une chaise longue à la pêche à pied, en escalade pour les moissons au bain de soleil en tricotant, tranquille dans la ville ou perdu dans la foule, cette heure est pour vous. 53 minutes choisies dans 10 années de Sur les docks, un thème et 4 épisodes pour faire vagabonder ses pensées et prendre les chemins de traverse. Cette semaine, du cinéma dans vos oreilles. Et aujourd'hui, pour une poignée de celluloïdes, un documentaire de Charlotte Garçon et Elisabeth Le Quéret, réalisé par Philippe Rouy. Collectionner des porte-clés, des timbres, des vieux journaux, des poupées, des billes, des boîtes de camembert ou de sardines, des dés, des briquets, des images panini, des coquillages, des amourettes, des reproductions de l'Angélus de Millet, des mauvaises expériences, des tableaux, des grands crus, des voitures, des pins, des papillons, des vieilles radios, du sable dans des bouteilles, des savonnettes ou des ratons laveurs. Collectionner pour le plaisir de la quête, de la traque, pour le plaisir de classer, d'ordonner son univers, de s'enterrer vivant ou de se faire un rempart. Collectionner pour remplir un vide, laisser une trace et surtout conjurer la mort. Finalement, on en revient toujours là. Alors au point où on en est, pourquoi ne pas collectionner les films et même plus précisément les bobines de films? Et on pourrait presque dire, si on s'emportait un peu, peu importe le film. Alors premier volet, on convoite même la pellicule.
Un jour, un type m'appelle en me disant « Oui, j'ai d'Angleterre. J'ai entendu parler d'une vente aux enchères. Alors, je sais que vous cherchez des films anciens. Il y a des films. Est-ce que ça vous intéresse ?» Donc, il nous faxe ici l'adresse de la salle des ventes. Et le commissaire-priseur nous dit « Bah, écoutez, c'est un monsieur qui est décédé. Il y a 6 caisses de bobines. Et mise en vente 100 livres. » Et on a acheté ça pour 150 livres, je crois. Dedans, il y avait la première version de La Belle et la Bête, en couleur, 1906. Et il y avait surtout cet acteur merveilleux qu'on appelait l'homme aux mille visages, qui s'appelait Lon Chaney, dans les années 20, qui a été le fantôme de l'opéra, il a été le bossu de Notre-Dame, il a été l'inconnu, il a été plein de gens. Et il y avait le premier film qu'il ait jamais tourné, qui datait de 1913, qui est évidemment un film totalement perdu. Enfin, des films de Lon Chaney, il doit en rester une petite dizaine et des longs métrages. Le film s'appelle Poor Jack's Demise. C'est un film finalement très banal. C'est un petit comique amusant. Enfin, c'est un document absolument exceptionnel pour les amateurs de Lon Chaney. Quand on a retrouvé cette bobine, j'étais là, oh, c'est incroyable, le premier Lon Chaney. Et je vais partout dans les bureaux. Ouais, on a retrouvé le premier Lon Chaney, on a retrouvé le premier Lon Chaney. Et les gens me regardaient en disant, mais qui est Lon Chaney?
Pour une poignée de celluloïdes, collectionner le cinéma. Une émission de Charlotte Garçon
et Elisabeth Le Quéret. Pour eux, tout a commencé dans un grenier ou une cave, dans une boutique poussiéreuse ou sur un marché aux puces. Ils avaient 10 ans, 12 ans, 16 ans, et depuis le virus ne les a plus quittés. Qu'ils amassent les caméras, les films 35 ou 16 mm, de vieilles VHS ou des DVD, ils n'aiment pas qu'on les considère comme des collectionneurs. Le mot, avec ses relents de secret et de fétichisme, ne leur inspire que de la méfiance. Sans doute parce que le cinéma est l'art du mouvement par excellence et qu'il s'accommode mal des placards.
Qu'est-ce qu'un film s'il n'est pas projeté sur un écran, si le collectionneur se contente de regarder sa boîte ou sa jaquette? Sans le temps du visionnage, c'est un objet mort, amassé pour rien. Pire, il possède sa propre temporalité, celle de la pellicule, qui se dégrade à des vitesses variées. Car les ennemis intimes des collectionneurs de films sont nombreux. Ils se nomment humidité, chaleur, inondation. Mais il n'y a pas que les risques naturels. La pellicule a aussi ses propres maladies. Et en quelques mois, le syndrome du vinaigre peut décomposer le plus précieux des films en un chewing-gum nauséabond.
Vous entendez le bruit ? Voilà, ça c'est complètement collé. ça colle sur les doigts. C'est un enfer. Ah, ce film-là, il est foutu.
Serge Brombert, directeur de Lobster Film.
Il n'y a plus d'image. Vous le voyez d'ailleurs, l'image a complètement fondu. Ça empeste. Enfin bref, trop tard. Mais c'est la vie. Hein, c'est dommage parce que ce truc-là, c'est un documentaire sur Moscou qui date de 1911. Je me suis dit que des images de Moscou en 1911, ce serait vraiment exceptionnel. Eh bien, nous ne le saurons jamais. Cette bobine, elle était à vendre sur un site de vente aux enchères. Vous voyez, on trouve des bobines absolument partout. Hein. Voilà, il y avait cette bobine à vendre. Et puis j'ai dû... Je crois que j'en ai proposé 5 dollars. C'était un truc en Amérique. 5 dollars. Et puis je l'ai eu pour 3 dollars. Voilà. Et elle valait 0 dollars.
Fabien Ruiz, danseur de claquettes.
Quand on est collectionneur de films, on ne peut pas dire « Tiens, ce film-là m'intéresse, je le veux ». On prend ce qu'on trouve, parce que c'est complètement le hasard, que ce soit par Internet maintenant ou avant, par des listes qu'on recevait par courrier, entre échanges de collectionneurs ou en allant sur des foires de collectionneurs, ben on regarde les titres qui sont marqués au feutre sur les boîtes en métal. Et puis, mais moi, je me suis jamais dit, tiens, je cherche... Je dis n'importe quoi, tiens, je voudrais Indiana Jones et le temple maudit. Je veux ce film-là absolument. Je le trouverai jamais. Par contre, sans le vouloir, un jour, je peux tomber sur, effectivement, en recherchant complètement au hasard. C'est toujours comme ça, de toute façon. C'est un peu comme un trésor enfoui ou caché. On se dit pas, tiens, c'est ce trésor-là que je veux. Non, on fouille, on creuse, on cherche pendant des années. Puis un jour, on tombe sur un trésor, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et là, bah, on prend le bobino, la galette ou la bobine, ça dépend ce qu'il y a dedans, et on déroule. Et donc on regarde à l'œil nu, en se dirigeant vers une fenêtre, et puis on regarde la pellicule, on a l'œil habitué, on arrive à distinguer les lettres du générique, on arrive à distinguer certaines choses. Et puis quand on est évidemment spécialisé là-dedans, c'est comme dans n'importe quel domaine, dès qu'on prend la pellicule dans la main, on sait de quelle année elle est, si elle est ancienne, si c'est du nitrate, si c'est du film safety, si c'est... on voit tout de suite simple perforation, double perforation, c'est donc un film muet, si c'est évidemment du 16, du 35, du 17,5, du 22, enfin il y en a eu plein des formats. Et puis on sait si c'est du Technicolor, si c'est un autre procédé couleur, donc ça c'est des choses qu'on sait très rapidement. C'est par contre le contenu du film qui est plus difficile à savoir, parce qu'effectivement le film peut être enroulé à l'envers, donc on peut être en fin de bobine qui n'est pas la dernière bobine, donc il n'y a pas le mot fin, on est au milieu du film, faut, avant de trouver un visage, quelque chose, c'est pas évident. Moi, je demande toujours la permission, même sur une foire de collectionneur, est-ce que je peux regarder? Et les gens disent toujours oui, bien sûr, parce que c'est le seul moyen de savoir ce qu'il y a dans le film, c'est de le dérouler.
Ici, dans la boutique rue La Charrière, il nous est arrivé plein d'aventures. Un jour, il y a un monsieur qui s'arrête juste devant, et il sort avec... il dit, c'est ici les bobines de film? Je dis, oui. J'ai 4 bobines, là, je vous les dépose, puis je vais me garer. Il les pose sur la table, et il disparaît, et on n'a plus jamais entendu parler du type. S'est-il garé? Que lui est-il arrivé? On n'en saura jamais rien. Il s'agissait de 4 bobines d'un film brésilien de 1923, dont avec des parties en couleur, enfin, un truc absolument hallucinant. Non, voilà, d'où ça vient, où ça va, je sais pas. Et c'est vrai que chaque année, on fait une découverte totalement extraordinaire. En même temps, découvrir un film, c'est quoi? C'est trouver quelque part un film qui n'existe plus nulle part ailleurs. Alors au début, on se dit, c'est totalement exceptionnel. J'ai entre mes mains la possibilité, si je détruis cette bobine, eh bien, ce sont des images qui existent, qui demain n'existeront plus. Sauf que c'est quelque chose de finalement très banal. Il y a 50% des films tournés avant la Seconde Guerre mondiale qui ont disparu. Donc d'une certaine manière, si vous retrouvez une bobine de film nitrate ou de choses comme ça, chez à droite, à gauche, sur un marché aux puces, il y a quand même une chance sur deux que ce soit un film perdu. Alors, du coup, la magie du film perdu n'existe plus à proprement parler. Je dirais qu'un film sauvé, c'est un film qui a été retrouvé. Il y a un film redécouvert, c'est un film qui a été restauré et remontré. C'est dans cet acte-là que le film existe à nouveau. Et la réalité, c'est que la seule bobine qui compte, c'est celle qui est sur le projecteur.
Alors là, il y a la cabine de projection. Donc tout ça est construit de mes petites mains. Donc ça, c'est aussi insonorisé, hein, forcément, parce que on veut les conditions comme dans un vrai cinéma. Mais moi, je suis collectionneur de films, mais pas que de films. C'est-à-dire que je suis collectionneur de l'ambiance film. Il y a des collectionneurs de films qui vont collectionner que pour le grain de la pellicule, que parce que c'est une pellicule Kodak de 1951 ou l'autre parce que c'est une pellicule. Moi, a priori, ça, je m'en fiche un peu. Ce que j'ai envie, c'est de voir un film que j'aime, mais de le voir comme au cinéma, quoi. Vraiment dans une salle de cinéma.
Vous nous montrez quelque chose ?
Mais volontiers, volontiers. Le film, je dirais, qui me tient le plus à cœur, parce que là, j'en suis très fier, je suis le seul à voir ce film et à l'avoir trouvé, surtout que c'est un film que personne ne connaissait, c'est le film Jazzot de Django Reinhardt, donc qui est le seul film où on voit et où on entend en son synchrone Django Reinhardt avec Stéphane Grappelli. Donc c'est un film que j'ai trouvé par hasard chez un brocanteur qui n'était pas du tout spécialisé dans le cinéma d'ailleurs. Et bah, ce film-là, d'abord j'ai eu beaucoup de mal à ouvrir la boîte parce qu'elle était toute rouillée. Et il y avait juste marqué Jazz, J-A-Z. Donc déjà, il y a souvent des fautes d'orthographe, je ne sais pas pourquoi, chez les collectionneurs de films. Donc c'est vrai que c'était une surprise absolument incroyable de voir que c'était le quintet du Hot Club de France avec Grappelli, Django Reinhardt. Et puis après, en faisant des recherches, de s'apercevoir qu'en fait, c'est un film absolument rarissime, que personne ne connaissait, personne n'avait. Voilà, donc ça, c'est, je dirais, le fleuron de ma collection. Voilà.
Then jazz, little by little, lost its coldness. And straight jazz became hot, thanks to a few musicians whose remarkable improvisations gave jazz a new lease on life. Listen to Django Reinhardt. It is the same melody, but what a difference in interpretation. These three musicians will represent two guitars and a bass fiddle.
Christophe, nous sommes dans votre salon et on...
Ouais, enfin si on peut appeler ça un salon, oui.
Christophe, chanteur-compositeur.
Il y a des objets pas forcément toujours facilement identifiables, mais je vois des jukebox de...
Mais j'ai pas beaucoup de lumière pourtant, hein, j'ai pas allumé les bougies. Parce que moi je marche qu'à la bougie. Hein. Mais effectivement, c'est des... J'appelle ça des monuments qui sont bien dans la pénombre.
From the magic strings of the instruments of these five musicians was formed the quintet of the Hot Club of France.
Vous aviez des films à un moment chez vous? C'était oui. Ici
ou
c'était...
Ah non, pas de bâtiment, non. Ah non, j'avais une vraie belle salle de projection. C'était dans le 16e, dans un appartement en fait. Je me suis retrouvé dans le 16e parce que l'appartement collait vraiment à l'espace que je voulais créer, c'est-à-dire le genre... la petite cabine pour mettre les machines et puis la salle de projection. Donc c'était un rez-de-chaussée, ce qui est plus facile pour porter les films parce que c'est très lourd les films. Et j'avais effectivement une très très belle collection, parce qu'une collection ça prend la passion de la pellicule. Et pour un film, j'ai tellement de souvenirs par rapport à tous les films en histoire, la façon dont je suis allé les chercher. Ça, c'est quelque chose d'aimer la pellicule comme ça et d'aimer. Et donc, c'est pour ça que quand je vais au cinéma, je vois pas les films comme un spectateur, je vois les films comme un projectionniste, quoi. Donc, je les vois. Un peu différemment, mettons, je vois toujours les fins de bobine, moi. Je vois les fins de bobine, c'est normal, hein. Je vois s'il y a le point, ou s'il y a. Le point est un peu faible, je vois tout. Disons que j'ai l'œil. Vous savez, des films, j'en ai projeté pas mal, hein. À mes potes, et beaucoup. Je me suis projeté pas mal à moi, parce que des fois, je me faisais des 2-3 films dans la nuit, hein. Mais rien qu'à moi, quoi. Parce que c'était l'époque où les salles de cinéma prenaient un coup terrible, c'est-à-dire qu'on cassait toutes les belles salles de cinéma pour faire des bruits du cinéma, quoi. C'était honteux, quoi. C'était vraiment... On sentait la décadence qui a duré pas mal de temps. Et après, les salles ont commencé à redevenir des endroits du plaisir, quoi.
Jean-Claude Brissot, cinéaste.
Pour moi, la vidéo, c'était l'équivalent du rêve d'enfant. Quand j'étais enfant ou adolescent et que j'allais au cinéma, je rêvais de pouvoir voir un film. Souvent, j'achetais les musiques de films, parce que comme ça, je repensais au film et j'allais souvent les revoir. Hein. Et tous les films importants, je les ai vus au moins 7 ou 8 fois. Et certains que je n'aimais pas au début, je pense en particulier à La Ventura. Quand je suis allé voir le film, je me suis profondément emmerdé la première fois, mais comme j'avais lu que le film était bien, j'y suis retourné. Et je l'ai trouvé mieux, de mieux en mieux au fur et à mesure de mes visions. Mais au début, je le détestais. Enfin bref. Et c'est donc à partir de la cinéphilie que je suis devenu réalisateur. Hein. Et ensuite, quand bien sûr quand je suis tombé sur la vidéo, là j'ai été content parce que pour moi, la vidéo, c'était le fait de pouvoir étudier les films, comme on utilisait quand j'étais adolescent, les classiques Larousse pour étudier le théâtre.
Est-ce que vous avez déjà le souvenir de la première VHS que vous avez achetée ou de votre premier magnétoscope ?
C'était en 78 ou 79 et je peux même vous dire exactement quel est le premier film que j'ai enregistré. Je l'ai acheté, et ça coûtait cher à l'époque et j'avais pas beaucoup d'argent. C'est un euphémisme. J'ai payé ça 7000 balles à l'époque et le premier film que j'ai acheté, que j'ai enregistré, c'était Le crime était presque parfait, qui passait au ciné-club. Et je me rappelle, comme il fallait que je règle moi-même le magnétoscope et tout, au début, j'avais la trouille de ne pas pouvoir régler mon appareil à temps. Alors, celle que j'ai achetée, ça, c'est une autre chose, parce que ça, c'est beaucoup plus tard. Donc, les premiers, c'est simple, hein, les premiers films que j'ai enregistrés, c'était ceux qui sont passés dans un festival d'Hitchcock. Alors, les cassettes coûtaient cher à l'époque, d'ailleurs, entre parenthèses. Et puis, ça a baissé au fur et à mesure. Et je me rappelle, le principe était que je ne prendrais que quelques films, ceux qui étaient les mieux. Et puis après, mon principe a volé en éclats. Hein.
Fabien Ruiz.
Enfin, tout ça vient de mon père qui filmait les films de vacances en 8 mm et qui nous les projetait, comme beaucoup de gens à l'époque, en tirant un écran dans le salon, en posant un petit projecteur sur la table de la salle à manger, et voilà. Et puis, parmi les films de vacances, il y avait 4 petites bobines de 3 minutes qu'il avait achetées en noir et blanc muet de Mickey, de Pluto, de Donald. Et ça, c'était un choc incroyable avec mon frère. À chaque fois qu'on regardait les films de vacances, on n'avait qu'une envie, c'est d'arriver au moment où il nous mettrait le dessin animé. Et non pas nous à la plage ou à Noël. Et là, il fallait le voir quasiment en boucle. On demandait 10 fois de revoir plutôt rentre tard au Mickey au golf. Et voilà, la passion est née comme ça.
When Mr. Southwind sighs in the pine, old Mr. Winter whimpers and whines. Down in the meadow, under the snow, April is teaching green things to grow.
Je faisais partie d'un cercle de cinéphiles où on se repassait toute une série de films, un cercle international, je veux dire. Donc j'avais 2 magnétoscopes tristandard. À l'époque, c'était rigoureux, il y avait pas, il fallait vraiment avoir un magnétoscope tristandard et une télévision tristandard. Je me rappelle, le magnétoscope tristandard, il m'a quand même coûté 8000 balles. Et non plus que ça. Et bref, on se passait les cassettes et on se les recopiait. Et alors parfois on avait une deuxième, une troisième ou une quatrième génération. C'est simple, les cassettes qui étaient prises à l'étranger. Par exemple, j'avais un ami qui avait un correspondant danois et j'ai eu beaucoup. Alors là, il n'y avait pas de sous-titres, mais c'était pas grave. J'ai eu tous les films de Lubitsch, je les ai eus comme ça. Et alors d'autres fois, on a fait des choses qui n'étaient pas toujours très légales, à savoir qu'un copain qui avait telle ou telle copie d'un film en 16 mm, je pense en particulier à Vertigo et à L'homme qui en savait trop, version américaine, on se faisait un téléfilm et on se le recopiait. Alors c'est souvent moi d'ailleurs qui avais la tâche de recopier tout ça. Je passais des nuits entières à recopier des films pour les copains.
Et c'était avant l'âge de l'Internet. Donc comment ça fonctionnait, ce club international? C'était européen, c'était américain, il y avait des Américains aussi
Oui, on avait des correspondants aux États-Unis. Par exemple, il y avait un copain qui était en correspondance avec deux... Alors lui voulait avoir tous les westerns, alors il prenait tous les westerns qui venaient de toutes les télévisions allemandes, mais surtout des États-Unis. Et en échange, alors le correspondant aux États-Unis nous lui envoyait des films, et nous en échange, comme il était complètement dingue de Brigitte Bardot, à chaque fois qu'on trouvait un film avec Brigitte Bardot, chut, on lui envoyait une copie.
Mais c'est vrai qu'il y a eu des gens, par exemple, qui ont voulu m'acheter des copies, notamment, par exemple, le film Pour qui sonne le glas, d'après Mingway, avec Gary Cooper, Ingrid Bergman. Il y a un collectionneur qui m'a écrit, téléphoné pendant 3 ans, je ne sais pas combien de courriers, de coups de téléphone, mais il le voulait à n'importe quel prix. Alors je pense que c'est parce que je devais, encore une fois, avoir peut-être la seule copie existante en 16 mm, puisque je ne l'ai jamais revue sur aucune liste. Je sais que j'ai souvent entendu parler, par exemple, d'un film comme Johnny Guitar, qui est aussi un film qui est extrêmement recherché par les collectionneurs. Moi, ce film-là ne m'intéresse pas, mais voilà, il y a quelques films comme ça, ou certains films qui ont été tirés en noir et blanc, alors que ce sont des films en couleur. Et on ne sait pas pourquoi, pour des raisons budgétaires, ils n'ont été tirés que sur de la copie, de la pellicule noir et blanc. Donc, si par hasard quelqu'un trouve une copie couleur, forcément, c'est assez étonnant, quoi.
Vous lui avez cédé ?
Non, pas du tout. Non.
Mon premier film en 16 mm, ça a été La Maison des Otages, avec Humphrey Bogart.
Christophe.
Et là, je projetais dans mon salon. À l'époque, j'habitais rue de Courcelles, dans un truc... j'habitais seul, là, j'étais bien. Et j'avais quelques bobines, comme ça, je ne sais plus ce que j'avais. Alors, on appelait ça les gros morceaux. Les gros morceaux, c'était Spartacus, 2001, l'Odyssée de l'espace, West Side Story. Alors moi, j'ai un moment... Il y a plein de films que j'avais pas vus. Donc, je voulais découvrir par le cinéma, donc je me fiais à certains... Alors tout le monde disait, ah, j'ai une copie de West Side Story, tu la veux? Et moi je pensais que j'allais avoir un truc qui allait complètement m'éclater. Et en fait, West Side Story ne m'a jamais plu. Donc je l'ai vite échangé, parce que c'est un club d'échangistes. La pellicule, c'est un club d'échangistes. Ah non, c'est tout un, mais d'aller chercher un film au péage de Montpellier, avec un rendez-vous à 2h du matin au péage de Montpellier, faire le voyage, faire un échange d'un objet, d'une machine à sous, ou d'un truc comme ça, ou d'une guitare rare, contre 4 films rares, parce que le type a la combine, lui, pour les attraper, ou moi je ne vais pas, parce que j'ai rencontré vraiment des gens qui ne parlent pas et qui sont et qui n'ont pas envie de naturellement de donner leur combine. C'est très rare qu'un collectionneur prête un film à un autre, pas parce que il veut pas le prêter à l'autre, mais simplement peur de prêter un film et que mon film passe sur une mauvaise machine, vous voyez ce que je veux dire, sur un hachoir. Voilà. Et puis moi ça m'est arrivé de récupérer la copie, il fallait refaire des collages. On sentait qu'elle avait subi un truc sur la machine.
What? Get out of here, run! Somebody's coming. Hi.
C'est des gens très 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 particuliers, ces collectionneurs. Et c'est des gens qui. Mais ils savaient aussi qu'il y avait le danger d'être attrapé à cause des distributeurs, quoi.
On en arrive à parler de ce moment où ça s'est arrêté. Qu'est-ce qui s'est passé?
Mais il s'est passé. J'avais fait une projection dans la nuit, comme d'habitude, certainement, un truc de plaisir, et j'ai pas dormi beaucoup, je me souviens. Et à 7h30 du matin, une femme, deux hommes, une voiture, des gens venus d'ailleurs, qui fouillent partout, pensant trouver des cassettes, pensant essayer de trouver un système pour qu'ils n'ont jamais trouvé.
Un système de piratage,
oui,
en fait.
Oui, voilà, ouais, pour faire des copies, quoi. Et bon. Voilà, bon, vite décelé, sur mes trucs. Bon, c'est sûr que c'est quelque chose qui. On sent qu'il y a quelque chose qui fait mal, quoi. Mais bon, comme les humains aiment bien se faire mal. Enfin bon, peu importe. Aujourd'hui, je suis. C'est vrai que je suis sur un coup là, d'un appareil, d'un très bon appareil américain. Alors après, quand on a l'appareil, allez savoir ce que. Il me reste quand même un petit bout de pellicule là. Je sais pas. Moi, c'est une bobine, vous voyez là-haut qui commence. Il n'y a plus rien dedans, juste derrière le piano là. Vous êtes, c'est juste derrière. Ouais, une petite bobine.
Rouge.
Non, la noire. Toute... Vous la voyez rouge, moi, c'est parce que. Voilà, quoi. Non, puis bon, des fois, je me disais, bon, je redémarrerai bien. Parce que ça manque. C'est vrai que ça manque. La pellicule, c'est une drogue. Hein. L'autre jour, j'ai dit à quelqu'un, je suis capable d'avoir des 35 mm, là, rien que pour le kiff, quoi. Même sans avoir la production. D'avoir Badlands, vous voyez. D'avoir Badlands. D'ouvrir la boîte en ferraille, et puis comment. De se faire une petite. Un petit snip de péloche. De Badlands. Vous voyez ce que je veux dire? La terre, quoi.
We hid out in the wilderness, down by a river in a grove of cottonwoods. It being the flood season, we built our house in the trees with tamarisk walls and willows laid side by side to make a floor. There wasn't a plant in the forest that didn't come in handy.
Et toujours près de mon lit, une petite boîte encloisonnée, noire, petite comme ça, qui m'attend. Et ça, dedans, il y a le film de ma vie, qui est réaliste, ou surréaliste, mais qui est là, toujours présent, et doux, violent. Et qui déclenche effectivement beaucoup de choses dans mon imaginaire et dans ma réalité, quoi. Et c'est peut-être cette petite boîte en cloisonnée noire qui fera qu'un jour je ferai un film, mon film à moi.
Un jour, j'aurai tout. J'aurai tous les Murnau, tous les Dreyer, tous les muets allemands, tous les Rudolf Valentino et tous les westerns de John Wayne, tous les chapeaux d'Audrey Hepburn et tous les brushings de Grace Kelly, je les aurai sur mes étagères. Je pourrai me les passer en boucle, le jour, la nuit, seul, chez moi. Je les aurai juste pour moi. Je ne sortirai plus, je n'aurai plus besoin de rien.
Les collectionneurs sont-ils des enfants peu partageurs qui se projettent à l'infini des films qu'ils connaissent par cœur? Pas seulement. Derrière chaque collection de cinéma, il y a un dessin, minuscule ou mégalomane, souvent les deux. Le projet de la collection dépasse la seule accumulation, qu'on en vienne soi-même à faire des films, à enseigner le cinéma ou à compiler la somme du siècle.
En fait, il s'est passé un processus que je ne peux pas m'expliquer. En voyant un film, j'avais besoin d'en écrire l'impression.
René-Marc Gage, comédien.
Donc j'ai commencé à l'âge de 12-13 ans à faire des cahiers complets en récupérant des tas de magazines de cinéma. Et quand je voyais un film, il fallait que j'en fasse la critique ou il fallait que j'écrive ce que je ressentais. Et que je colle sur mes cahiers tous les documents que je pouvais trouver sur le film en question. Quel que soit le sujet du film, quel que soit le genre de film. Donc la collection a commencé un petit peu comme ça. Tous les films que je voyais, il fallait que je les recense. Après, avec l'arrivée de la vidéo, tous les films que j'ai aimés, il fallait que je les ai chez moi. Et puis après, avec l'arrivée des nouvelles technologies, y a eu possibilité de voir tout, un maximum de choses. Voilà, et puis est née l'idée d'une encyclopédie que j'ai appelée Cinéclopédie et qui a pour but de recenser absolument tous les films que j'ai vus. Voilà, alors la particularité, c'est que je me suis évidemment, j'ai beaucoup d'encyclopédies du cinéma, c'est que la moindre encyclopédie du cinéma recense à peu près 33 000 films maximum. Et moi, à l'heure actuelle, j'en ai vu 75 000. Donc je les numérote, je les note, j'engrange depuis l'âge de 14 ans toutes les critiques de cinéma qui peuvent sortir dans n'importe quel magazine, que ce soit Télé 7 jours ou Le Monde ou Libé ou Première, ou toutes les critiques m'intéressent pour donner une véritable opinion du film, et mon encyclopédie est basée là-dessus. Donc j'ai décidé de faire une encyclopédie de A à Z, uniquement à partir de l'invention du cinéma des Frères Lumière, 1895, jusqu'à 1999. Donc là, j'ai recensé en A1 tous les films en A qui correspondent aux comédies dramatiques ou aux comédies. Après, j'ai un autre fascicule qui correspond aux films de guerre, aux westerns, tout est classé par genre et par ordre alphabétique. Toujours l'avant-propos qui explique la démarche. Et puis à partir de ce moment-là, les films commencent à être classés par ordre alphabétique avec le nom du réalisateur, les comédiens, le genre, l'année. Souvent, il y a la sortie du film, parce que j'arrive à retrouver le jour exact où le film est sorti en France, la durée, ma note, ma critique, et puis ce qu'en pensent les autres, des extraits des autres critiques. Alors là, vous avez les comédies dramatiques, qui sont classées donc par ordre alphabétique. Vous allez comprendre le truc à la fin, parce qu'à la fin, une fois qu'en lettre A, j'ai recensé toutes les comédies dramatiques que j'ai vues, nous sommes bien d'accord, je fais un classement, le classement des comédies dramatiques par ordre de préférence. Je pars du principe, en fonction des notes, qu'il y a des films à voir absolument. Vous voyez, là, on a L'argent de la vieille de Comencini ou L'âge des possibles de Pascal Ferrand, L'année, Le pays. Et pour moi, dans ma vidéothèque, j'estime qu'un film doit se garder à partir de 18 sur 20. Et je fais en sorte que dans ma collection, dans chaque catégorie, je possède les films que j'ai notés à 18, 19 et 20 sur 20. Moi, j'envisage de publier. Voilà. Alors, bien entendu, je pars du principe que c'est l'œuvre d'une vie. Je ne pense pas que je vais publier ça dans 15 jours. Je pense que plus je grandis, plus j'engrange. Et que c'est une encyclopédie qui aura de la valeur à la fin de ma vie. Et s'il y a publication, ce sera en tout cas dans les dernières années de ma vie, quoi. Je l'envisage comme ça. J'ai tout simplement dans la tête de faire la plus grande encyclopédie du cinéma qui soit jamais faite. Et ce qui est intéressant, c'est que dans toutes les encyclopédies du cinéma, il y a des genres qui ont été éliminés d'office. Que ce soit les séries Z, que ce soit les films d'horreur, que ce soit les films pornographiques. Moi, je recense absolument tout. Tout ce qui s'est fait en matière de réalisation en images. Je parle de films qui soient sortis sur un écran de cinéma. Donc je ne limite pas les genres et je vois absolument tout. Il est vrai que l'avantage du magnétoscope ou du DVD, quand un film est, excusez-moi l'expression, un petit peu emmerdant, on passe en accéléré. Donc il m'est arrivé souvent de voir des films en 20 minutes. Mais même dans un AV, même dans un film sans intérêt, il y a toujours 2-3 minutes qui sont intéressantes. Toujours. Ça m'intéresse. How much may I say to start? What am I bid? 100 is bid, thank you. 150 is bid here, say the 200. Thank you. 200 is bid. Say the 300.
Étant donné que moi je suis totalement autodidacte, c'est à partir de la vision des films que j'ai commencé à comprendre et que j'ai essayé de vouloir en faire moi-même avec ma caméra Super 8 il y a de ça 30 ans.
Jean-Claude Brissot.
Mais à la grosse différence, par exemple, des élèves de la FEMIS que j'ai eu il y a un an et demi, moi je regardais les films. En payant ma place à l'époque, puisqu'il n'y avait pas encore de vidéo, 20, 30, 40 fois. Tous les films importants, je les ai vus 7, 8, 9, 10 fois, et eux, ils me disent, mais non, nous, on considère que, par exemple, les mécanismes de dramatisation, quand on aura vu 10 films l'un derrière l'autre, on commencera à les connaître. C'est pas vrai. Sur les films qui ne sont pas très bons, c'est d'ailleurs à partir des films pas bons que j'ai plus appris que sur les autres. Parce que là, on voit bien au niveau de l'émotion ce qui cloche, on voit bien quelque chose qui cloche. Alors que sur ceux qui sont vraiment réussis, et ils ne sont pas si nombreux que ça, c'est beaucoup plus difficile à voir. On a commencé, sauf pour ceux qui étaient amoureux des genres. par exemple, le western ou le film noir. La plupart du temps, on a commencé par les metteurs en scène reconnus, c'est-à-dire Hitchcock, Renoir, enfin tous les metteurs en scène importants. Ensuite, moi, j'ai élargi, parce qu'au début, je m'intéressais essentiellement à la mise en scène, et puis ensuite, je me suis intéressé aux comédiens et à la technique des comédiens. Et c'est à partir de ce moment-là, par exemple, que j'ai commencé à essayer de prendre tous les films de tous les comédiens internationaux. Et parce que je regardais l'évolution de leur jeu, de film en film. Par exemple, quand on voit Gary Cooper, il y a une évolution qui a été liée à deux metteurs en scène précis, qui ont été Cecil Bedmin pour Plainsman, et on voit que Clint Eastwood s'est beaucoup inspiré de son jeu à ce moment-là, et Frank Capra. Un petit peu Lubitsch, mais ces deux, Capra et... ont été déterminants. Vous regardez en particulier l'extravagant Monsieur Dietz, il est à la limite de la connerie, et il arrive à faire passer quand même un certain nombre de choses. Apparently, the only performance that'll satisfy you is when I play dead. Your very next role, you'll be quite convincing, I assure you. Vous voyez aussi Cary Grant, l'évolution du jeu de Cary Grant. J'avais toujours considéré, quand je voyais par exemple Sergent York les westerns avec Gary Cooper, qu'il était, il jouait pas et qu'il était exactement comme il était dans la vie. Et puis je me suis un jour, en discutant avec Kremer, que je me suis rendu compte en regardant Ariane Love in the Afternoon, la fin, et surtout Sergent York, qui avait un travail énorme, et que par exemple dans Sergent York, il s'amuse vers la fin, il y a une séquence précise où il vous balance une phrase naïf à la limite de la connerie, et l'autre héromythique. Et c'est très difficile de tenir ce genre-là, cet équilibre-là, enfin le mélange. Ça demande toute une série de problèmes, et Cary Grant a essayé de faire pareil. Good night, sweetheart. Don't think it wasn't nice. Say the 12. Vous prenez d'une autre manière un exemple que je donne très souvent. Vous prenez La mort aux trousses. Qu'est-ce que c'est ? C'est l'histoire d'un quinquagénaire qui a peur des femmes et qui, à chaque fois qu'il a un bobo, appelle sa maman. C'est Woody Allen. Mais si vous foutez Woody Allen à la place de Cary Grant, le film s'effondre. Et on peut se demander qui aurait pu jouer à la place de Cary Grant. Last call. 1500. Well, the bid is already up to 2250, sir. I still say 1500. I have 2250. Do I hear 25? 2250 once, 2250 twice? 1200. Sold for 2250. And now? 2250 for that chromo? Même pas Gary Cooper, parce qu'il avait un côté humain qui ne collait pas avec. James Stewart avait un côté trop sérieux. Même quand il jouait les comédies, il avait un côté sérieux qui était parfois à la limite de l'hystérie. Alors, David Niven, qui était plus dans le registre comique, lui, il restait dans le domaine comique. Il était plus proche de Woody Allen. Bref, le seul qui pouvait... On n'imagine pas La mort aux trousses sans Cary Grant. Et je vous dis, c'est en étudiant à un moment, je me suis amusé à regarder... les vedettes américaines. C'est là où j'ai réalisé qu'Errol Flynn n'était pas le mauvais comédien du tout qu'on avait seriné sans arrêt. Surtout qu'en plus, lui, monté à cheval, il est obligé de jouer des séquences où il tenait l'épée, etc., etc. Et c'est difficile. C'est Stewart Granger qui, d'ailleurs, quand il a fait Scaramouche, a réalisé que le travail de Errol Flynn était beaucoup plus difficile que celui des comédiens maintenant, où on se contente de dire bonjour, bonsoir, et de dire d'être comme on est dans la vie, alors qu'ils avaient un travail beaucoup, beaucoup plus compliqué. Alors bref, si vous voulez, on commençait, si vous voulez, par les grands réalisateurs, et puis par les genres, puis moi, les comédiens, et au fur et à mesure, si vous voulez, ça faisait boule de neige.
Entre une collection privée et une collection publique, entre le salon et l'institution, la cloison n'est pas toujours étanche. C'est à un fou de cinéma, Henri Langlois, que l'on doit les collections de la Cinémathèque française. Preuve que l'obsession d'un seul homme peut devenir une affaire d'État. Dans une lettre adressée à sa tante Maritza, le directeur de la Cinémathèque, épuisé, parle de son activité comme des travaux forcés à perpétuité. Sa collecte absorbe son temps, son énergie, et tous ses pouvoirs de séduction. Sans cette passion privée, des pans entiers de l'histoire du cinéma seraient partis au rebut.
Laurent Manoni, directeur des collections d'appareils de la Cinémathèque française.
Henri Langlois a commencé à collectionner le film, mais aussi le non, ce qu'on appelle aujourd'hui d'une façon très laide, le non-film, c'est-à-dire toutes les archives, tout ce qui entoure le film, tout ce qui entoure le cinéma, la production cinématographique, les archives, les maquettes, les photos, les dessins, les affiches, les appareils, les costumes, les objets. Donc il a eu une vision très tôt encyclopédique, qui détonnait un peu par rapport à ce que faisaient ses collègues de son époque dans les autres cinémathèques, parce que les autres cinémathèques privilégiaient avant tout la pellicule. Mais il a une ambition un peu folle, un peu utopique, qui est de sauver le meilleur du cinéma à travers le monde entier. Moi, j'aime bien le comparer à Vivant Denon, conservateur du Louvre sous Napoléon. Ce Vivant Denon qui était extrêmement cultivé, extrêmement boulimique, lui-même collectionneur privé aussi, à la différence de Langlois qui, lui, va collectionner uniquement pour la Cinémathèque, même si la Cinémathèque, c'est sa maison à lui, c'est sa collection privée aussi. Et puis, il a le même esprit du Vendenon qui consiste aussi à rafler à travers le monde entier les trésors du monde entier. Quoi. Voilà, le Louvre conserve des chefs-d'œuvre du monde entier. Et la Cinémathèque va faire pareil.
Il se comporte en fait comme un collectionneur privé.
Voilà, il se comporte comme un collectionneur privé, mais avec la plupart du temps les biens de l'État, enfin les fonds. Avec l'argent de l'État, ce qui est tout à fait quand même singulier, quoi. Mais au fond, c'était ce que faisait aussi Vivant Denon, qui constituait sa collection avec l'argent de l'État, avec les rafles opérées par l'Empire, mais avec son goût particulier. Alors la politique de Langlois en ce qui concerne ses collections, c'est aussi de ne pas dresser d'inventaire. C'est tout à fait c'est une décision politique dans ce sens où il veut d'une part créer une sorte de mystère autour de sa collection, parce qu'il ne cesse de dire, à juste titre d'ailleurs, quelle est la plus belle au monde, collection film, collection non-film. Et donc effectivement ce mystère alimente beaucoup de fantasmes, beaucoup de secrets, beaucoup de non-dits, beaucoup de rumeurs autour des fonds de la Cinémathèque qui semblent illimités, le tonneau des Danaïdes. Et par ailleurs, il ne veut pas dresser d'inventaire aussi parce qu'il estime que la Cinémathèque française est une petite république à laquelle peuvent participer tous ceux qui le veulent. Et tous les membres de cette république sont invités à déposer leurs archives, leurs films à la Cinémathèque, mais cela dans le plus grand secret.
Mes chers amis, je vais avoir le plaisir de vous présenter ma dernière acquisition. Et elle est l'aboutissement de ma carrière de collectionneur d'instruments musicaux et mécaniques. Je crois que la chose vous plaira. Je vous laisse juger. Un, deux.
Derrière Henri Langlois et le fonds unique au monde que possède la Cinémathèque française sur l'expressionnisme allemand, il y a une femme. Lotte Eisner. Née en 1896 à Berlin, dans une famille juive aisée, elle vit les grandes heures du théâtre expressionniste de Max Reinhardt et de Bertolt Brecht, qu'elle rencontre à l'âge de 25 ans. Die Eisnerin, comme l'a surnommée Brecht, devient critique de cinéma pour le Berliner Tageblatt et le film Courir. Elle hante les studios de Babelsberg, assiste au tournage de Metropolis de Fritz Lang et du journal d'une fille perdue de Georg Wilhelm Pabst. Exilée à Paris, elle rencontre Henri Langlois, qui l'aidera à se cacher en province pendant la guerre. Employée sous un faux nom par la Cinémathèque française, elle garde, pendant l'occupation, le précieux fonds de films entreposé par Langlois dans les greniers d'un château.
Lotte Eisner, ou comment l'histoire de la Cinémathèque française devient un film d'espionnage.
Henri Langlois a dit en 1964 que les collections de la Cinémathèque avaient été collectées à 80% par Lotte Eisner. Donc si c'est lui qui le dit, d'abord c'est très rare qu'il dise du bien de ses collaborateurs ou collaboratrices. Et s'il le dit à cette époque, c'est très important. Ça signifie vraiment effectivement qu'il a une certaine reconnaissance pour Lotte Eisner, parce qu'à cette époque, et depuis longtemps d'ailleurs, il n'a plus le temps lui-même de courir à gauche et à droite aux puces ou chez les marchands pour essayer de trouver des choses. Donc en fait, Lotte Eisner est devenue conservatrice des collections non-films à partir de 1945, et elle a eu pour mission à partir de cette époque de rafler donc Le mot raflé revient d'une façon permanente dans la correspondance de Langlois et de Lotte Eisner. Lotte Eisner a une mission donc, que lui confie Henri Langlois à partir, enfin très tôt, presque sous l'occupation, mais surtout après-guerre, qui consiste à rafler, entre guillemets, c'est vraiment le terme qu'ils utilisent, tout ce qu'ils peuvent à travers le monde pour un jour ouvrir un musée du cinéma.
Henri Langlois, lettre à Lotte Eisner, 1957.
Lotte, à Prague, ayez la gentillesse de voir le metteur en scène des saltimbanques et raflez-lui un script, des maquettes de décors et de costumes. Je suis sûr qu'il pourra vous aider même pour d'autres. En ce qui concerne le dessin animé, songez que j'irai à Prague. Donc l'objectif numéro un, c'est l'homme, que ma propre frigidité ne peut réchauffer. Donc c'est Turnka qu'il faut voir. Soyez Salomé et je vous donne deux trucs et un conseil. Conseil, en aucun cas n'essayez d'avoir une poupée. C'est comme si vous lui arrachiez son cœur, il vous haïra et vous n'aurez rien. Premier truc, faites-vous montrer les dessins préparatoires qui sont dans le genre des dessins de Méliès de la conquête du pôle. Quand il prépare une marionnette, quand il invente un personnage, quand il étudie comment le mouvoir, j'en ai vu traîner sur les chaises lors de ma visite. C'est cela qu'il faut pour notre musée. Évidemment, il commencera à montrer des choses en cours qu'on ne peut lui demander. Puis, d'enthousiasme en enthousiasme, il sortira les vieilleries et là, vous gémirez et vous raflerez. Le gros argument, c'est qu'il ne peut donner des choses qui coûtent cher. Mais comme le papier ne coûte pas cher, il sera à court d'arguments. Deuxième truc, quand vous aurez obtenu cela, alors vous verrez dans le studio traîner des débris de fond de décor. Vous demanderez ce que c'est, et on vous dira ce n'est rien, des trucs à balayer. Vous vous baisserez et vous ramasserez, les yeux humides d'émotion, en disant « Ah, le cirque, ah, ceci, ah, cela !» Et vous presserez ces choses sur votre cœur et les emporterez.
Elle avait un grand avantage.
Laurent Manoni.
C'est qu'elle avait été journaliste donc, dans les années 20 au film Courir, à la fin des années 20. Elle avait été la première critique, femme critique de cinéma à Berlin. Et à ce titre, elle avait pu rencontrer énormément de réalisateurs, d'acteurs. Elle avait participé, elle avait assisté à des grands tournages, etc. Et donc, elle connaissait tout le monde. Et ils vont confier, déposer, donner ou vendre ce qui constitue les choses les plus précieuses de leur passé, c'est-à-dire leurs décors, leurs esquisses qui ont été faites donc, à partir des années 20 pour les plus grands réalisateurs allemands de l'époque, soit Fritz Lang, Pabst, Murnau, Paul Leni, etc. Nous sommes dans les réserves de la Cinémathèque, les réserves d'appareils de la Cinémathèque qui sont en fait à la Bibliothèque Nationale de France, nouvelle bibliothèque. Ici on conserve tout ce qui touche l'histoire technique du cinéma, des origines jusqu'à nos jours. Alors, des origines, Langlois, comme beaucoup d'autres, avait une vision très large de la naissance du cinéma. Il estimait qu'il existait 300 ans de cinéma, donc il datait les débuts du cinéma du jésuite Kircher au XVIIe siècle. C'est pour cela que nous conservons des pièces effectivement qui datent du début du XVIIIe siècle ici et jusqu'aux dernières productions. Donc maintenant on a des caméras, vidéo, des choses qui commencent à arriver de l'ordre du numérique aussi.
Vous nous montrez quelques pièces ?
Oui, alors donc il y a des boîtes d'optique du XVIIIe siècle. Ce sont des boîtes que l'on mettait dans des salons ou dans des foires. Alors, les plus belles d'entre elles étaient décorées à la main, peintes à la main. Donc elles sont très précieuses, très fragiles aussi. Donc la triple lanterne qui est à côté, c'est tout en acajou et en cuivre verni, c'est magnifique. Et ça servait pour les projections, donc à la Royal Polytechnique ou ailleurs. Ça permettait de faire des juxtapositions d'images, des surimpressions d'images, et ça a beaucoup influencé les premiers cinéastes anglais, et puis même les premiers truqueurs du cinéma comme Méliès, puisqu'il y avait toutes sortes de trucages d'optique et lumineux que l'on pouvait réaliser grâce à ce type de machine. Alors, il y a aussi des objets bizarres dans la collection Day ou dans la collection Langlois. Par exemple, cette machine à musique qui auparavant devait se trouver dans les cafés ou dans des maisons closes, peut-être. C'est une magnifique machine qui a été faite à la fin du 19e siècle. C'est l'ancêtre de jukebox, en fait. Système à sous. Et là, il y a un disque en métal qui va venir s'insérer dans un lecteur de disques mécanique. Alors, l'appareil se nomme Polyphone. Il a été fabriqué en Allemagne, donc vers les années 1890. Alors, on a beaucoup de disques différents, on a plusieurs heures d'écoute, mais là, on va vous faire écouter une petite valse. Je me souviens quand je suis arrivé à la Cinémathèque, c'était à l'époque où elle se trouvait au Palais de Chaillot. Donc les collections d'appareils étaient dans des réserves tout au bout d'un couloir, dans des caves. Et c'est vrai que moi, quand je suis arrivé dans cette collection, c'était un mélange de caisses qui n'étaient pas ouvertes et beaucoup de poussière. Il y avait des caméras posées par terre, il y avait des carreaux cassés aux fenêtres et il y avait des photocopieuses en panne ou des machines qui n'avaient rien à voir. C'était un vaste capharnaüm, mais en même temps ce capharnaüm m'a procuré un immense plaisir dans le sens où c'était un grenier absolument fantastique. C'est le grenier de mon enfance, quoi. C'était vraiment c'était un mélange de vous savez, ce plan de Citizen Kane, ce plan merveilleux où on voit toute la collection que Kane a réunie, espèce de panoramique sur les milliers de caisses dans cette immense salle. Et puis le grenier de l'enfance où on peinait dans un lieu comme ça qui est poussiéreux, qui n'a pas été exploré depuis longtemps, et on ouvre les malles et on trouve des trésors. Et ça a été le cas effectivement, puisque c'est ainsi que, à même le sol, on a trouvé la caméra de Méliès. On l'a simplement identifiée en la démontant, en s'apercevant que d'abord qu'il y avait une carte de visite qui servait de cale à l'intérieur de l'appareil, etc. Donc vous voyez, c'est une série de découvertes comme ça qui ont permis d'exhumer cette collection fantastique. Donc cette caméra qui date de 1896 a permis à Georges Méliès de tourner son premier film, qui était un plagiat d'un film Lumière en fait, une partie de carte. Et il a eu le plus grand mal à bricoler cette caméra. Alors plus tard, il a prétendu en être l'auteur intégral. Il a prétendu l'avoir conçu de toutes pièces, mais en réalité, en la démontant, on a compris qu'il s'agissait à l'intérieur d'un projecteur anglais que Méliès avait acheté à Londres et qu'il a rapporté à Paris et qu'il a transformé en caméra. Donc c'est une caméra assez archaïque qui fonctionne avec deux croix de malt à 7 branches chacune. Donc il y avait une grande roue qui tournait et qui entraînait le mécanisme. Et Méliès a raconté qu'il avait fait des vues de plein air dans Paris avec cette machine et que le bruit de cette ferraille intriguait beaucoup les passants. À côté, il y a la première perforeuse de film française qui a été fabriquée en France par un monsieur Lapipe. Et ce monsieur Lapipe a fait un projecteur que nous avons aussi, qu'il a baptisé le Lapiposcope.
Oh, it's dark.
Is that better?
But it's enormous. Terribly sorry. Oh, this all seems so terribly technical. If this is where you work, I can't wait to see what you work at. Mark?
Don't know what to show you.
Well, what were you looking at when I interrupted you?
All right.
Pour une poignée de celluloïde, collectionner le cinéma. Une émission de Charlotte Garçon et Elisabeth Le Quéré.
Avec Serge Brombert, Fabien Ruiz, Christophe, Jean-Claude Brissot, René-Marc Gedge, Laurent Manoni et la voix de Thierry Perret.
Alors, on met sur un plateau, on met sur l'autre. Le secret, c'est toujours de passer le film dans des poulies, dans des machins, dans des essieux qui l'entraînent. Voilà.
Prise de son, Éric Audra. Mixage, Georges Sautour. Réalisation, Philippe Rouy.
Et voilà, j'ai une mauvaise nouvelle, c'est la fin.
L'heure du documentaire, c'est fini pour aujourd'hui. Bibliographie, liens et podcast pour la rando, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous trouver sur Facebook, à la page France Culture Documentaire. Et demain, d'où sortent les objets des décors de cinéma.